Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Personne n'a été candidate après la mort de Marielle. On l'était déjà. Et c'est effectivement le mouvement féministe de ces dernières années qui est à l'origine des candidatures de cette élection.
Marielle Franco, cette conseillère municipale assassinée au Brésil, qui en a inspiré beaucoup, mais vous l'avez entendu, il y a eu d'autres inspirations avant. Le fait est qu'il n'y a jamais eu autant de candidates noires au Brésil pour une élection qui se déroulera le 7 octobre. On y va dans un instant. Sous les radars et Amélie Perrier avec une petite Florence qui n'aime pas qu'une tempête porte son nom, avec un baobab et un poil d'éléphant aussi pour en faire des bijoux. Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, résolument féministe, qui nous racontera la première ministre de Nouvelle-Zélande à la tribune des Nations Unies. Juste avant 18h50, le cinéma en VO, Corinne Pellissier a vu précisément Donbass et viendra nous en parler. On en profite justement pour parler du Donbass ce soir. Cette région de l'Ukraine collée à la Russie, toujours en guerre, une région d'ailleurs dans laquelle on n'entre pas, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
4 ans, donc 4 ans de guerre en Ukraine. J'ai presque envie de dire qui s'en soucie aujourd'hui et même qui s'en souvient. Il y a pourtant jusque-là 10 000 morts. Les images de la place Maïden, elles sont quand même assez vivaces dans l'esprit de chacun. Les images de l'annexion de la Crimée finalement aussi. Et puis peut-être qu'on oublie au milieu qu'il y a cette velléité séparatiste d'une partie de l'Est de l'Ukraine, le Donbass russophone, qui donc aujourd'hui encore est en guerre contre l'Ukraine. Le Donbass soutenu, manipulé aussi par la Russie. On verra quels sont les termes qu'il faut réellement employé. Puis on le disait il y a un instant, qui fait l'objet d'un film qui sort aujourd'hui et qui sera intéressant évidemment de chroniquer dans un instant dans Un jour dans le monde. Bonsoir Lulia Choukane.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse, maîtresse de conférences à l'Université de Paris-Nanterre et chercheuse aussi à l'Institut des sciences sociales du politique. Vous bloguez, vous avez un blog qui s'appelle Carnet de terrain, que vous alimentez quand vous le pouvez. D'abord, est-ce que vous êtes rentrée vous récemment dans le Donbass? Qui peut encore rentrer dans cette région-là?
Peut-être qu'on commencera par une précision sur le Donbass, parce que le Donbass en soi, c'est d'abord une région économique, dont la majeure partie se trouve en effet à l'est de l'Ukraine. Ensuite, le Donbass ukrainien, ce sont deux régions administratives, la région de Donetsk et de Lugansk, dont la majeure partie, à peu près 65%, se trouve sous le contrôle de Kiev, donc des régions loyales. Et ensuite, près de 35%, donc, qui échappent au contrôle de Kiev, des territoires séparatistes, soutenu par Moscou.
Avec deux sortes de républiques populaires, très bizarrement, la République populaire de Donetsk et celle de Lugansk. Donc
effectivement, puisque les deux grandes agglomérations de Lugansk et Donetsk sont restées un territoire séparatiste, donc c'est autour de ces deux grandes villes que sont formées deux entités, deux états de facto, la République autoproclamée de Donetsk et de Lugansk.
Alors, un mot sur ce que je disais. D'abord, est-ce que vous pouvez même, vous, la chercheuse, vous pouvez rentrer ou pas du tout?
Non. Les chercheurs peuvent, avec quelques aménagements quand même, circuler dans la partie sous contrôle de Kiev, mais les chercheurs ne peuvent pas rentrer dans les territoires séparatistes, ou d'ailleurs comme les journalistes.
Absolument.
Aussi, parce que ce qui fait qu'on a effectivement très peu d'informations ou des éléments très très parcellaires sur ce qui se passe dans ces territoires.
Alors justement, est-ce qu'on sait, vous avez parlé effectivement de ces deux républiques populaires autoproclamées, est-ce qu'on sait comment vivent les gens? C'est-à-dire, y compris administrativement, il y a encore des administrations, il y a des écoles, il y a tout ça. Est-ce que l'administration ukrainienne a gardé le contrôle? Est-ce qu'elles sont sous contrôle russe, administration russe? Comment ça se passe à l'intérieur?
On a des éléments, bien sûr, là-dessus. Les États séparatistes se sont assez rapidement lancés dans la construction étatique, puisque leur légitimité vis-à-vis des populations sous leur contrôle en dépendait. Et les administrations, en fait, se sont rapidement mises en place aussi à partir de ce qui restait, finalement, des administrations ukrainiennes. Et donc, on a plus ou moins le calque de ces anciennes administrations pour tout ce qui est services publics, pour tout ce qui est institutions politiques, par exemple.
Mais est-ce que c'est Kiev qui paye les fonctionnaires, toujours, ou pas ?
Non. Kiev a arrêté les paiements à l'automne 2014. Et la mise en place de ces administrations s'est accompagnée d'un transfert de fonds de Russie vers ces territoires séparatistes qui sont entièrement entretenus par la Russie.
Les gens qui y habitent, est-ce qu'ils ont, eux, la possibilité d'entrer-sortir de la zone sans aucune difficulté? On imagine que peut-être certains allaient, je ne sais pas moi, à l'école plus loin, à la fac plus loin, il y a des endroits qui sont coupés bêtement en deux. Est-ce qu'il y a des allers-retours quand même de la population ou pas?
La circulation est difficile parce qu'il faut s'imaginer, elle passe par la ligne de contact, ce qu'on appelle la ligne de contact, c'est une ancienne ligne de front qui a été dessinée par les combats, qui s'est plus ou moins stabilisée, mais autour de laquelle il y a toujours des bombardements réguliers. Et donc, il y a 4 points de passage aménagés pour la région de Donetsk et 1 point de passage pour la région de Lugansk. On estime à peu près entre 40 et 50 000 personnes qui circulent quotidiennement par ces quatre postes.
Et c'est, pardon, allez-y, finissez, pardonnez-moi.
Ce sont des postes, il faut juste s'imaginer les conditions très difficiles de ce passage, ce sont des heures d'attente à l'air libre.
Ouais. Ça ressemble à des postes frontières, en fait.
Effectivement, ce sont des postes frontières, même s'ils n'en portent pas le nom. Mais ce sont des postes frontières, avec des gardes frontières au contrôle, avec un système de laissez-passer électronique. Et aussi, ce que je disais, ce sont des conditions de traversée difficiles, puisque c'est souvent une attente à l'air libre. Dans des territoires infectés de mines aussi. Mmh. Et régulièrement, il y a des bombardements. Donc, des deux côtés, il y a des situations où les autorités, soit ukrainiennes, soit les autorités des républiques autoproclamées, ferment les postes frontières, en raison de la dégradation de la situation sur le terrain.
Les gens qui continuent à habiter dans ces zones-là, ceux qui ne sont pas partis, sont-ils restés par conviction ? Sont-ils restés parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour s'installer ailleurs? Comment ça se passe pour ces gens-là?
Je pense qu'il y a de tout. Il y a effectivement une partie qui sont restés par conviction et qui espéraient que ces territoires allaient être intégrés à la Russie comme la Crimée l'a été en 2014. Il y en a d'autres qui n'ont tout simplement pas les moyens de partir, ou encore ceux qui ont essayé de partir, qui sont essayés de partir à Kiev ou dans d'autres villes ukrainiennes, mais qui ont été obligés de revenir pour cause de manque d'argent, tout simplement. Absence de travail, conditions de logement. Il n'y a pas de logement alors qu'ils avaient un logement dans les régions de Donetsk ou de Lugansk. Et donc, il y a énormément de retours, effectivement. Surtout qu'on est dans une guerre de position et pas des guerres d'avancée. Alors, les retours sont massifs depuis 2016.
Et on va y venir, d'ailleurs. Est-ce qu'on a un pourcentage, finalement, de gens qui sont restés dans ces nouvelles, on va appeler ça comme ça, ces nouvelles enclaves russes, qui sont restés par conviction? Est-ce qu'on sait que c'est 30%, 40%, non. 60% ou pas du tout?
Malheureusement, les sondages ne sont pas... Il est impossible de mener des enquêtes fiables dans ces territoires, dans les conditions où il y a quand même le couvre-feu le soir, par exemple. Il y a des pressions sur un certain nombre d'activistes. Exposer ses positions pro-ukrainiennes, il est absolument impensable dans ces territoires. Donc, on n'a pas même d'idée de ratio. On a juste ce chiffre entre 3 millions et demi de personnes qui vivent dans ces territoires.
Vous l'avez dit, on avait regardé les choses avec beaucoup plus d'attention, y compris là, lorsque la Crimée a été officiellement, j'y mets des guillemets, annexée par Vladimir Poutine. Est-ce que la construction du pont, par exemple, a ravivé un certain nombre de tensions? Quelque chose qui dirait la Crimée, c'est fait, et bientôt le tour du Donbass? Est-ce que ça a un peu changé la manière de voir les choses?
Du point de vue ukrainien, la Crimée, c'est pas fait non plus, puisque effectivement, l'Ukraine ne reconnaît pas l'annexion et considère la Crimée comme son territoire. Elle ne reconnaît pas non plus les entités séparatistes à l'est de l'Ukraine et développe tout un projet de réintégration, en tout cas d'après la feuille de route de Minsk 2. Donc à cet égard, je pense que pour les deux territoires, la question de oublier, tirer un trait là-dessus, ne se pose pas dans ces termes-là, en tout cas, du point de vue ukrainien.
Mais pourtant, comme vous le disiez, c'est une guerre de position. Donc ça tire tout le temps, effectivement, vous le rappeliez, et en même temps, il ne se passe rien de précis, en fait.
Il y a des mouvements un tout petit peu à chaque fois le long de la ligne de contact, puisque les deux parties essaient d'améliorer leur position tactique, par exemple, ou tester les positions ennemies. C'est ça, cette proximité, en fait, des positions armées qui explique les hostilités au quotidien. Et ensuite, effectivement, on est dans un blocage au plan diplomatique, puisqu'il existe cette feuille de route Minsk 2, un accord de cessez-le-feu et un plan de règlement du conflit en 13 points. Mais on est au point mort depuis plus ou moins la signature de cet accord.
Ça veut dire que de part et d'autre, on n'a pas envie de lâcher, mais de part et d'autre, on n'a pas envie non plus de donner une sorte de coup d'éclat qui ferait que cette guerre non seulement se poursuivrait, mais pourrait faire subitement dans une offensive encore plus de morts.
Mais il y a une lecture contradictoire des deux parties, et je parle pour le coup de la Russie qui est directement impliquée dans ce conflit, qui soutient les territoires séparatistes, et de l'Ukraine, puisque l'Ukraine mise sur l'aspect sécuritaire. On a dit que c'est une guerre de position, des bombardements réguliers. Donc, tant qu'il n'y a pas de sécurité sur la ligne de contact, on ne peut pas avancer sur le dossier politique pour l'Ukraine. La Russie est mise au contraire sur le volet politique, donc organisation d'élections dans les territoires séparatistes et un statut particulier, statut qui donnerait des pouvoirs larges, notamment les fonctions régaliennes à ces territoires. Et donc, chacun campe dans ses positions. La Russie ne veut pas lâcher pour ne pas perdre la face, effectivement, dans ces territoires, alors que peut-être, effectivement, en tout cas du point de vue économique, il aurait été plus rationnel de lâcher ces territoires. Mais le projet est autre. Le projet, c'est d'empêcher le rapprochement de l'Ukraine de l'Union européenne ou encore l'adhésion à l'OTAN au long terme. Et donc, il n'y a pas d'issue. Tout le monde reste dans le cadre de Minsk 2, en tout cas au niveau déclaratif. Et pour le moment, il n'y a pas d'avancée.
Et avec une communauté internationale qui parle beaucoup de cette zone-là, c'est le cas notamment même assez récemment à la Tribune des Nations Unies, puisque les sanctions russes en partie sont dues à cela, mais effectivement, il ne se passe pas trop de choses de ce point de vue-là non plus. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de Kiev quand même? Il y a eu cette période où tous ces gens dans ces zones-là avaient le sentiment que leur appartenance, qui était plutôt russophone même au niveau de leur langage, était un peu reniée par Kiev. Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par l'Ukraine et qui sont sur lesquels il est difficile de revenir.
Je ne sais pas si on peut parler d'erreurs, mais en tout cas, il y a un sentiment d'oubli de l'autre côté de la ligne de contact dans les territoires séparatistes, et notamment parmi les populations âgées, les retraités. L'Ukraine les a mis dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'ils ont le droit à des retraites. Ils avaient travaillé pendant de longues années pour les obtenir, mais l'Ukraine les obligeait à traverser la ligne de contact, à s'enregistrer dans les territoires sous son contrôle pour pouvoir toucher ces retraites. Et donc, il y a un sentiment d'oubli, effectivement, et d'abandon, tout simplement, de la part de ces populations. Et ensuite, il y a aussi le volet commercial. Il y a eu un blocus qui s'est mis en place depuis 2017, qui pèse lourd, en fait, à la fois pour l'Ukraine et pour les territoires séparatistes, puisque l'Ukraine a dû réorienter ses circuits de production, alors qu'il y avait une interdépendance forte entre les deux parties.
Lyudmila Shchukina, le leader de la République de Donetsk a été assassiné, c'était en août dernier, donc c'est très récent. D'abord, est-ce que ça a changé la situation réellement? Et alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur c'est une provocation russe, c'est une provocation ukrainienne. Est-ce qu'on sait exactement ce qui a pu se passer? C'est pas le premier dirigeant à être assassiné.
Tout à fait, il y a eu un certain nombre de chefs combattants qui avaient été éliminés, mais parce qu'ils étaient peu loyaux à l'égard de Moscou, et donc des assassinats qui n'ont pas été éclaircis, toute la lumière n'a pas été faite. Je pense que ça a surtout révélé l'implication russe, parce qu'il y a eu une sorte de confusion au moment de la stratégie de succession à Zakharchenko. Ses proches ont pris le pouvoir pour deux jours, et ensuite il y a eu une autre candidature, là, Denis Pochelin, qui est impliqué dans les négociations autour de Minsk II, qui a été désigné par Moscou comme nouveau dirigeant de la République populaire de Donetsk, et qui apparemment, il y a une élection qui est lancée pour le 11 novembre, qui sera confirmée certainement au terme de cette élection.
Une dernière chose, Lyudmila Shchukina, est-ce qu'on peut imaginer une région pacifiée, une réconciliation? On a l'impression que le divorce est réellement consommé, il y a quasiment un mur. Hein.
Je garde un certain optimisme, notamment par la prégnance du lien social. C'est 40 000 personnes qui traversent quotidiennement la ligne de contact, qui ont encore des attaches à la fois en Ukraine et des attaches en territoire séparatiste. Et je pense que c'est à partir de ces liens-là qu'on peut essayer de bâtir la paix.
Mais est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se parle réellement? Est-ce qu'on se rencontre?
Quand on est en famille, quand on est en famille, on se parle. Peut-être on évite un certain nombre de sujets, notamment le sujet politique. Le politique, c'est le conflit, c'est la division. Mais en tout cas, on maintient le lien. Et le lien s'est d'ailleurs renforcé parce que la rupture était assez brutale en 2014 et le lien se renforce depuis.
On est content d'avoir pu reparler du Donbass sur France Inter parce que c'est vrai qu'on le fait très très rarement. Lyudmila Shchukina, merci beaucoup. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris-Nanterre, chercheuse à l'Institut de sciences sociales du politique. Et justement, on n'a pas fini d'en parler, tiens.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Et c'est la suite d'Un jour dans le monde. Du coup, je commence avec vous. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Bonsoir. Puisque vous allez nous parler dans le cinéma en VO de ce film qui sort aujourd'hui, ça s'appelle Donbass, auquel on fait là allusion et puis surtout qui fait beaucoup parler de lui.
Oui, voilà, un réalisateur, Sergueï Loznitsa, qui cherche à nous alerter avec un film très dur, très violent et surtout très partisan.
Et on voit ça donc dans un instant à suivre aussi. Et juste avant, nous allons au Brésil en campagne électorale. Un Brésil qui voit se multiplier les candidateux noirs, des profils à la Marielle Franco qui a été assassinée au Brésil il y a 6 mois sous les radars. Et Amélie Perrier avec une petite fille qui donne des sous aux victimes de Florence parce qu'elle s'appelle Florence. Un baobab dans la main et un poil d'éléphant en bijoux. Et puis le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Nouvelle-Zélande, petit pays, grande première ministre.
Oui, on les connaît surtout pour leurs rugbymen néo-zélandais, mais les Néo-Zélandais ont aussi une femme première ministre ou première ministre qui vient de secouer le cocotier masculin de l'ONU.
Et ça fait toujours du bien. À tout de suite, le tour de la planète continue sur France Inter. Il passe par la jungle, figurez-vous. Jungle, c'est le groupe. Heavy California, c'est le titre. très jungle, ce groupe Jungle. Ça fait très californien, mais du coup, ça s'appelle Heavy California. Finalement, la vie est bien faite.
France Inter.
Good evening and welcome.
You're as much of a champion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et sous les radars, qu'est-ce qu'on trouve ? Amélie Perrier. Amélie, Florence, je ne me trompe pas, Florence est un joli prénom, mais c'est aussi le nom de la tempête qui a fait des ravages aux États-Unis la semaine dernière.
Alors, pas évident pour cette petite fille de 4 ans, Florence Wisniewski, d'entendre son prénom en boucle à la télé. L'ouragan et les inondations monstres ont tué au moins 44 personnes dans les États de Caroline du Nord et du Sud et en Virginie. Écoutez, la maman de Florence. Elle ne savait pas vraiment ce qui se passait, dit la mère Tricia. Donc on a commencé à lui montrer des vidéos, à lui lire des articles, à lui dire ce qui se passait, les maisons noyées sous l'eau, et donc elle a voulu aider. Alors la famille a mis une caisse devant son porche et devant l'école de Florence pour recueillir des boîtes de conserve, des couches, tout ce dont avaient besoin les sinistrés de la tempête.
Because I think it's right to do. To help people.
Voilà, Florence qui dit qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire, d'aider les gens. Elle a 4 ans. Hein. Mmh. Et l'affaire a pris de l'ampleur, surtout quand la mère de Florence a posté une photo sur Facebook pour rappeler à donner. Le message a été partagé des milliers de fois. La famille a collecté des denrées jusqu'à l'anniversaire de Florence, c'était le week-end dernier. Une petite fille avec un grand cœur et donc un prénom dont elle peut de nouveau être fière, on va dire.
Vous savez comment s'appelle la dernière grosse tempête, hein ?
Non, ne me dites pas,
mais
ne
si.
Me dites pas.
La dernière grosse tempête s'appelle Fabienne.
Vous êtes notre ouragan, Fabienne.
J'ai traversé la Suisse assez tranquillement, j'ai tout bien ramassé derrière moi, je voudrais le dire. Allez, on poursuit en Allemagne où les politiques ont un certain sens du rythme.
Andreas Scheuer, le ministre des Transports, le montre un peu à ses dépens. Une vidéo est en boucle dans les médias. On y voit le membre du gouvernement CSU dans une boîte de nuit à côté du DJ. Mais il dit, pas de politique aujourd'hui, pas de discours, j'ai amené quelques amis, alors maintenant, on fait la fête. Le ministre des Transports allemand était invité à inaugurer le Lobo, un club en Bavière à Passau, sa ville natale. Les médias se moquent un peu de sa façon de danser, et au-delà du rythme, c'est le timing qui dérange surtout. Scheuer est censé être en campagne pour les élections régionales en Bavière dans moins de 3 semaines, et la CSU n'a pas vraiment de quoi faire la fête. Pour l'instant, les sondages lui prédisent un score humiliant avec la montée de l'AfD, l'extrême droite. En tout cas, le ministre a déjà été élu sur Twitter nouveau monsieur parti au gouvernement.
Vous savez, depuis qu'on a vu danser Theresa May, tout le monde peut être Janet
Jackson.
Alors
c'est un peu mieux. J'avoue que là, c'est un peu mieux. Vous savez, Fabienne, quel est le nouveau super aliment à la mode ?
Mais non !
Eh bien, je vais vous le dire, c'est le fruit du baobab. Vous n'avez jamais goûté.
Mais non, je ne sais même pas à quoi ça ressemble.
Mais c'est un fruit dans.
Vous non
qui vient du baobab. Si, j'ai vu ça sur des vidéos. Et l'arbre que l'on trouve en Afrique ou à Madagascar produit donc une petite pépite. En Afrique du Sud, Anna Mouvali, elle récolte la production des arbres de son jardin dans la province de Limpopo. Et ce projet a commencé en 2006, dit Anna à France 24. Et à l'époque, je ne savais pas que le fruit du baobab pouvait avoir de la valeur. Il en a, de la valeur, car il renferme des propriétés nutritives exceptionnelles, vitamine C, calcium, potassium, magnésium, fer, tout ce que cherchent les Occidentaux, comme nous, en quête de bien-être. Et les exportations de poudre de baobab sont passées de 50 tonnes en 2013 à 450 tonnes l'an dernier. L'arbre peut vivre 1000 ans, il met quand même 200 ans à produire ses premiers fruits. Ah. Une exploitation donc à l'opposé de l'agriculture intensive. Les producteurs assurent qu'ils ne touchent pas aux arbres, qu'ils ne font que ramasser les fruits qui tombent. Des scientifiques s'inquiètent quand même, de vieux baobabs sont morts en Afrique récemment, peut-être une conséquence du réchauffement climatique.
Amélie, je ne vous laisse pas partir sans notre série animalière. Ah. Cette semaine, après les lions d'Asie, après les tigres du Népal, nous nous inquiétons des éléphants du Vietnam.
Car figurez-vous que la dernière mode, c'est de porter des bijoux avec des poils d'éléphant arrachés à la queue de l'animal. Oui. Ces bijoux prodigueraient bonheur et prospérité. À 20 dollars le poil, c'est sûr qu'il est une bonne source de revenus pour les trafiquants et les braconniers. En Birmanie, on sonne aussi l'alarme, puisque les éléphants sont parfois tués pour être vendus à la Chine voisine, où l'on croit que la peau peut soigner l'eczéma ou l'acné.
En même temps, tiens mon cœur, voici une bague en poils d'éléphant. Tue l'amour assuré.
Je ne sais pas si ça marche.
Voilà, mon avis non. Merci Amélie, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est au Brésil que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Le Brésil dans la dernière ligne droite avant ses élections du 7 octobre. Les épisodes autour de Lula, nous les avons suivis ensemble. Les coups de feu aussi contre le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, pardon, qui est en tête des sondages. Un homme terriblement raciste, homophobe, machiste, qui a eu par exemple cette phrase. C'est normal que les femmes gagnent moins puisqu'elles tombent enceintes. Bonsoir Anne Vignard.
Bonsoir Fabienne.
Et l'une des conséquences justement de ces propos, du profil de cet homme, c'est que les femmes défilent au Brésil. Pas seulement, elles se présentent aux élections. Un nombre record de candidates noires. Un profil à la Marielle Franco, conseillère municipale de Rio, assassinée il y a 6 mois seulement. Elle était féministe, lesbienne, issue des favelas, devenue donc un véritable symbole pour toutes ces femmes, Anne.
Effectivement, pour la première fois, les partis de gauche présentent un nombre record de candidates noires. Par exemple, l'Alliance du Parti communiste et du Parti des travailleurs annonce cette année 400 candidates femmes, dont plus de la moitié sont des jeunes femmes noires, issues de la périphérie. Et c'est vrai que ces visages, ces parcours rappellent beaucoup celui de Marielle Franco, à l'image de Taina, qui, comme Marielle, est entrée à l'université grâce aux places réservées aux noirs et qui a ensuite milité à ses côtés.
Je suis Taina de Paula.
Je m'appelle Taina De Paola, j'ai 35 ans, je suis architecte et urbaniste, militante féministe. Je suis candidate pour être députée et c'est dans ce contexte d'instabilité démocratique et en particulier après l'assassinat de Marielle Franco. L'assassinat de Marielle a montré comme il était important que les femmes noires participent à la politique. Mais nous, nous en étions déjà conscientes, nous étions déjà en train de préparer nos candidatures. Personne n'a été candidate après la mort de Marielle, on l'était déjà. Et c'est effectivement le mouvement féministe de ces dernières années qui est à l'origine des candidatures de cette élection.
Le mouvement féministe fait nos últimos anos no Brasil que deu o tom dessa eleição. Isso é inegável.
Le mouvement féministe a en effet été très actif depuis 3 ans face à la destitution controversée de l'ancienne présidente Dilma Rousseff, menée par un groupe parlementaire évangélique très conservateur. Ce groupe, composé quasi exclusivement d'hommes blancs, veut aussi durcir encore la législation sur les questions de contraception, d'avortement, d'éducation sexuelle. À leur tête, le président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, sombre personnage, toujours accompagné d'une Bible. En 2015, il devient la bête noire des femmes qui manifestent contre lui au cri de Cunha sort, la pilule reste. Jair Bolsonaro, l'actuel candidat d'extrême droite, est proche de ses conservateurs. Et les femmes comprennent déjà ce qui les attendent, comme le dit alors Sonia dans une manifestation en 2015.
On doit lutter, car je crois que le mouvement conservateur grandit vraiment trop. C'est effrayant. On sait comment ça finit tout cela. On a l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé avec des petites choses et c'est devenu le grand génocide de l'histoire.
En 2016, la première présidente de l'histoire du Brésil est destituée du pouvoir et l'image du nouveau gouvernement est une douche froide pour le mouvement féministe et noir. Le nouveau gouvernement présente uniquement des figures masculines, blanches et privilégiées. Le secrétariat d'État aux droits des femmes est supprimé, les conservateurs ont gagné. Et puis c'est le drame, le 14 mars dernier, la conseillère municipale Marielle Franco est exécutée à bout portant. La population de Rio est sous le choc.
Je suis venue parce que j'ai voté pour elle. Je l'admirais beaucoup. Son courage, sa force. C'est très triste de savoir qu'une personne qui nous représentait a été abattue comme ça.
Sa mort est un électrochoc pour la lutte noire et féministe. Marielle avait formé plusieurs collègues aujourd'hui en campagne électorale, comme Dani Montero, candidate, comme députée pour l'État de Rio, pour le Parti Socialisme et Liberté, le PSOL, le même parti que Marielle Franco.
Il y a un slogan qu'on disait toujours avec Marielle, qui vient du mouvement noir en réalité, qui dit « notre espace vient de loin » et qui signifie que notre lutte est un long chemin à parcourir. Le combat qu'a mené Marielle venait aussi de la lutte féministe contre Eduardo Cunha et on ne nous tolère plus, nous femmes noires. Mais si nous sommes la majorité de ce côté dans la population, pourquoi ne pourrions-nous pas être candidates, protagonistes du processus électoral ?
Desse processo.
À quelques centaines de mètres du comité du PSOL dans le quartier bohème de Lapa à Rio, une grande photo d'une femme souriante annonce le bureau de campagne de Veronica Lima du Parti des Travailleurs. À 44 ans, Veronica Lima semble déjà appartenir à une autre génération de militantes. Elle a été la première femme noire élue conseillère municipale dans la ville de Niterói, juste en face de Rio en 2013. Elle se présente cette année pour être députée au Parlement de Brasilia et elle ne cache pas que l'objectif est de féminiser et colorer ses bancs.
Aujourd'hui, il y a très peu de femmes et encore moins de femmes noires au Parlement. Nous avons 513 députés, dont 48 femmes et seulement 3 sont noires. On doit changer cela car les noirs sont la majorité au Brésil et surtout nous les femmes qui sommes toujours les plus touchées par l'inégalité. C'est pour cela qu'il est si important que le 7 octobre, on élise un printemps de femmes noires, féministes, au Parlement du Brésil.
Uma primavera negra de mulheres feministas e negras do parlamento no Brasil.
Je ne serai pas interrompue, disait Marielle Franco à la tribune du conseil municipal qui porte aujourd'hui son nom. Et en effet, depuis sa mort, la ville de Rio a dû approuver ses projets de loi devant la pression populaire, des lois essentiellement destinées aux femmes pauvres de la périphérie et pour mettre en valeur la culture noire, oubliée des fêtes officielles. Celles qui vont continuer de porter son héritage s'apprêtent à prendre le pouvoir, car les électeurs non plus n'ont pas oublié Marielle Franco.
Anne Vigna, pour Un jour dans le monde. Anne, merci beaucoup. Le scrutin, on le rappelle, et évidemment qu'on y reviendra, c'est le 7 octobre. Suzanne Vega sur France Inter, Tom Diner.
The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head.
Remixé, la Suzanne Vega sur France Inter, le cinéma en VO et Corinne Pellissier, c'est tout de suite.
3, 2, 1, Winter.
France Inter. Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO cette semaine, on en parlait en début d'émission. Corinne, c'est la guerre du Donbass, donc filmée par le réalisateur ukrainien Sergueï Losnitsa. Prix de la mise en scène à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Il revient ici sur les premières années de ce conflit, hein, qui, on le disait tout à l'heure, a dépassé les 4 ans, les 10 000 victimes. Un résultat, vous dites, frontal, violent, parfois improbable en fait. Ça s'appelle Donbass, on en parle après la bande-annonce.
Я командир. Вон, малый командир.
Я?
Нет. Кто командир?
Вот она.
Это твоя машина.
Моя?
Вот на нее и пиши.
Это ж грабеж.
А мы что, на велосипедах должны ездить?
Elle nous y emmène un peu, la bande-annonce, vers l'improbable et vers l'absurde d'ailleurs. Donc séparatistes pro-russes d'un côté, ukrainiens pro-occidentaux de l'autre, et puis au milieu, donc le réalisateur, Corinne.
Qui a clairement choisi son camp. Voilà le choix résolument pro-européen. Sergueï Losnitsa avait déjà tourné un documentaire en 2013, Place Maïdan, lors des protestations contre le régime du président Yanukovych. Avec Donbass, il a choisi cette fois la fiction parce que la réalité, selon lui, parfois eh bien dépasse tout. Il n'a pas eu besoin de se rendre sur place. Les images d'archives, les vidéos qui circulent sur le sujet sont d'après lui édifiantes et lui ont permis de construire son film à partir d'une série d'histoires, de situations qu'on imagine improbables, mais qui sont toutes inspirées de faits réels, parfois grotesques, d'autres fois réellement tragiques, à l'image par exemple d'une scène de lynchage, d'une violence inouïe, un homme accroché à un poteau avec un panneau qui lui bande la poitrine, « Je suis un traître », il est battu à mort par des passants qui hurlent « Nous sommes de vrais Slaves ». Sergueï Losnitsa était très choqué par cette vidéo qui lui a inspiré l'une des scènes du film, bien pire selon lui, dans la réalité.
Que veulent ces gens? Ils ne veulent pas forcément rejoindre la Russie. Ils veulent retrouver le rêve d'une Union soviétique qui n'est plus.
Et donc si
ce dont vous avez envie est en dehors de la réalité, ensuite tout ce que vous allez faire va être en dehors de la réalité. Cet épisode, comme beaucoup d'autres, a une référence très précise. J'ai reproduit une vidéo que j'avais découverte dans un petit village, une petite ville qui s'appelle Zugrez. Il s'est produit cette lapidation, en quelque sorte. J'ai été tellement choqué par cela, par la façon dont les gens se comportaient.
Comme
il est facile d'exciter la foule à partir d'une plaisanterie, la façon tellement facile d'humilier quelqu'un, et ensuite on le bat à mort pratiquement. Et c'est tellement facile en quelques minutes d'amener la foule à se comporter de cette façon.
C'est ça qui me
frappe. Je ne suis pas sûr que les gens soient différents dans différents pays.
Voilà le portrait d'une société en guerre perpétuelle, hein, Corinne. Et puis ce qui frappe évidemment, c'est que tout ça est très partial.
Sergueï Losnitsa, en fait, ne cherche pas à expliquer, juste à exposer un conflit aux contours qui ne sont finalement pas très clairs. On en a discuté tout à l'heure, à travers une dizaine d'histoires dont l'action se déroule entre 2014 et 2015 dans les territoires occupés.
Я думаю, что очень важно вообще-то здесь мало об этом говорят, очень важно помнить, что на границе Европы, на окраине,
de l'Europe, il y a une guerre.
Il y a une ligne fronte
et qu'il y a une ligne du front. Il faut pas l'oublier.
Каждый день гибнут
люди, стоя с другой стороны. Il y a des gens qui meurent d'un côté comme de l'autre.
Это очень важно понимать, что это не просто там борьба за территорию.
C'est très important de comprendre que ce n'est pas seulement un combat pour un territoire.
Это столкновение разных типов.
C'est simplement le fait que deux types de consciences différentes se sont rencontrées,
catapultées.
Et ce sont deux types de consciences qui s'excluent l'une l'autre. D'un côté, si on veut parler simplement, c'est un régime très, très simple, totalitaire.
Где человек ничего не значит.
Parce que et dans ce système-là, l'être humain, la personne ne signifie rien. Et il n'y a pas de droit.
И с другой стороны,
de l'autre côté,
это очень сложная система взаимодействия, управления обществом, где все-таки
une
человек
société dans laquelle,
очень
malgré
важен.
Tout, l'être humain joue un rôle.
Et donc la traduction à l'écran, ce sont des histoires où il est souvent question de violence, d'humiliation, de propagande, de manipulation, de faux civils par exemple qui témoignent après de faux bombardements. On les voit dans une caravane en train de se faire maquiller avec à l'extérieur des caméras de télévision qui les attendent pour réaliser de fausses interviews qui passeront elles sur de vraies chaînes de télévision. Tout cela est assez troublant.
Voilà, ça s'appelle Donbass de Sergueï Losnitsa. C'est au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, merci.
Le 18-20, Fabienne Saintès. sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, alors que les débats se poursuivent toute cette semaine aux Nations Unies sur l'Iran, sur le climat, ce soir vous vous dites, oublions tout ça, l'événement majeur de l'Assemblée Générale des Nations Unies cette année, ce sera la venue de la première ministre néo-zélandaise avec son bébé. Et c'est votre monde à l'envers.
Oui, ça s'est passé en fait dans la nuit de lundi à mardi, avant-hier soir, et en voici la preuve en image. Je vous montre la photo ici en studio et vous la retrouverez bien sûr sur franceinter.fr. Donc la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, avec son bébé de 3 mois là dans les bras, sur les sièges de la délégation néo-zélandaise à l'ONU. Cette dirigeante travailliste est âgée de 38 ans et quand elle a dû monter à la tribune, elle a confié sa petite fille, névée de son prénom, à son papa qui est assis là juste à côté. Alors oui, oublions en effet les grandes envolées lyriques des uns et des autres, les uns sur le multilatéralisme, les autres sur l'unilatéralisme, les grands discours, les postures sur le commerce, le climat, l'Iran, etc. Tous ces discours qui ne sont que promesses. Jacinda Ardern, elle a posé un acte. Vous trouvez ça anecdotique, anecdotique? Eh bien moi, je ne crois pas que ça le soit, parce que depuis la création de l'ONU il y a 73 ans, jamais dirigeant politique n'était venu aux Nations Unies avec son bébé, à tel point qu'il a fallu créer un badge spécial et qu'il a fallu, par exemple, transformer une salle de travail réservée à la délégation japonaise en pièce pour changer les couches. Absolument rien n'est prévu à cet effet au sein des bâtiments de l'ONU. Et il faut aussi remonter 28 ans en arrière pour trouver trace sur toute la planète d'une femme qui devienne maman alors qu'elle est au pouvoir. C'était Benazir Bhutto au Pakistan, seul et unique précédent. Avec ce seul geste, Jacinda Ardern vient donc de bousculer un monde d'hommes et elle est devenue d'ailleurs dans la foulée la coqueluche des médias américains. Ce soir, elle sera l'invitée du célèbre Late Show de Stephen Colbert sur CBS. Il y a 7 millions de téléspectateurs attendus, c'est plus que toute la population de la Nouvelle-Zélande.
Mais alors bon, tout ça c'est évidemment une très bonne nouvelle, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, Jean-Marc. Il y a encore très peu de femmes au pouvoir dans le monde.
Elles sont 14 à être chef d'État ou de gouvernement, donc sur les 195 pays membres de l'ONU, c'est vite fait, vous faites le ratio, on dépasse tout juste les 7%. La Nouvelle-Zélande fait figure de modèle. Non seulement c'est historiquement le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes, c'était en 1893, mais par-dessus le marché, depuis 20 ans, il y a eu 3 femmes premières ministres, dont Helen Clark pendant près de 10 ans. Il y a l'Australie voisine également, qui a eu récemment une femme à la tête du gouvernement, Julia Gillard. Et pour le reste, il faut aller en Scandinavie ou dans les pays baltes, des femmes premières ministres ou présidentes en Norvège, en Islande, en Estonie, en Lituanie. Rappelons aussi cet épisode récent en Norvège, on en avait parlé ici même, où le ministre des Transports, un homme, a démissionné pour favoriser la carrière de sa femme médecin. Exactement. Ajoutons bien sûr au paysage de figures emblématiques d'Europe occidentale, l'Allemande Merkel et la Britannique. Mais quelques femmes chefs d'État en Asie, au Bangladesh, au Népal, à Taïwan. Mais pour l'essentiel, vous avez raison, ce sont des arbres qui cachent la forêt. Est-il besoin de préciser qu'en France, c'est Waterloo, Morne-Plaine.
Alors on a eu une première ministre quand même.
Oui, quelques mois.
On dit souvent que quand même tout ça, ça s'améliore. Alors vrai ou faux?
Eh bien là aussi, idée reçue, c'est faux. Le nombre de femmes chefs d'État ou de gouvernement dans le monde a diminué quasiment de moitié en 2 ans. Plusieurs personnalités se sont retirées, par exemple Michelle Bachelet au Chili, Ellen Johnson Sirleaf au Liberia, et elles ont toutes été remplacées par qui? Par des hommes. À l'échelon d'en dessous, c'est-à-dire les femmes ministres ou parlementaires, c'est un peu mieux, mais la progression est lente. Souvent, les femmes ministres sont cantonnées dans des fonctions secondaires. Et quant aux parlementaires, tenez, devinette, essayez de deviner quels sont les pays les plus en pointe avec une majorité de femmes au Parlement. Tic-tac, tic-tac,
ben,
réponse, un pays européen
Eh
bien, pas du tout, non. Ce sont le Rwanda en Afrique et la Bolivie en Amérique du Sud. La France, avec 25% de femmes parlementaires, est en progrès, mais reste à peine au-dessus de la moyenne mondiale. Elle est devancée, par exemple, par l'Afghanistan. C'est inattendu, ça. Et dans plusieurs pays, notamment dans le Golfe Persique, il n'y a aucune femme députée. Donc oui, la néo-zélandaise Jacinda Ardern est bien inspirée de mettre les pieds dans le plat.
Et bien voilà, et peut-être que grâce à elle, il y aura donc des endroits pour changer les couches à l'ONU. Jean-Marc Four, merci beaucoup. On se retrouve demain, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Et juste avant, le journal de Sébastien Paour.